ce qui se passe dans le monde judiciariso-politique local, je pense que il ne permettrait pas que vous puissiez nous porter des jugements de loi et de juridique quand on peut lire ce qu'on lit dans les semaines qui se sont déroulées et faire en sorte que finalement les leçons que vous nous faites à nous à longueur de séances pour nous expliquer ce qu'est le droit, vous ne l'ayez pas expliqué à votre mari. Voilà ce que je voulais vous dire sur les orientations et sur les orientations 2021. Mais je sais que comme vous avez réponse à tout, vous allez certainement apporter des éléments nouveaux. Monsieur Raoult, ça a la parole.
Je souhaiterais, par un exemple simple, apporter des éléments de réflexion sur la gestion des finances publiques. Je vais vous parler de cette deuxième salle de cinéma. Pour ceux qui connaissent un peu Bollène, nous avons actuellement une salle de cinéma de 90 places qui est rarement complète, qui est rarement totalement occupée, sauf par les scolaires quelquefois. Et on vient faire une deuxième salle d'environ une cinquantaine de places pour un budget de 2 300 000 euros environ. Ce qui veut dire qu'une place de ce futur cinéma va coûter 45 000 euros la place. Pourquoi ? Justement pour faire plaisir à une certaine population qui aime se retrouver, phosphorer sur le monde, phosphorer sur le social, phosphorer sur les relations humaines, et souvent déconnectée de toute relation précise de terrain. Et pour amener l'élément de réflexion un peu plus conséquent, je vous rappelle, 45 000 euros une place de cinéma. Lorsqu'on a fait l'Opéra de la Bastille à Paris, autre chose, c'était 8 000 euros la place, le fauteuil. 8 000 euros une place de fauteuil à Paris, la Bastille, 45 000 euros à Bollène. Vous y voyez un peu quel niveau on a atteint à Bollène. C'est extraordinaire. On va peut-être certainement être les premiers en Europe au niveau d'une place de cinéma.
Bon, je vais vous répondre, M. Raoult, sur toutes ces assertions qui, finalement, illustrent votre groupe avec beaucoup d'intelligence, parce que je crois que ça vous a été présenté. D'abord, ce n'est pas 50 places, c'est 61. Vous étiez en commission, d'ailleurs, c'est tout à votre honneur d'être présent en commission, et ça vous avait été mis dans le compte-rendu, d'ailleurs, sur la présentation. C'est donc un mensonge ce que vous venez de dire, puisque ce n'est pas une deuxième salle de cinéma. D'ailleurs, je trouve que Mme Bompard a beaucoup progressé, parce qu'au début, elle réduisait la Maison du Terroir en office de tourisme, et désormais, elle dit que c'est une Maison du Terroir avec des commerces, ce qui n'était pas forcément ce que vous évoquiez au départ. Alors, M. Raoult, peut-être que vous allez faire pareil, et qu'à terme, vous aurez compris que cette manufacture qui regroupe à la fois ce cinéma et qui permettra demain sur les arts numériques et notamment sur la partie qui était les habitations de l'ancienne propriétaire, de pouvoir développer tout ce qui touche à la question de l'art et notamment de la question numérique. Et comme je vous l'ai déjà dit, je vous le redis, je ne suis pas forcément un féru de vélo et pourtant on a fait venir le Paris-Nice, je ne suis pas forcément un féru de cinéma et on va construire un cinéma parce qu'on ne fait pas Monsieur Raoult, avec un ton déjà très condescendant, je trouve, à l'égard de ceux qui pratiquent les cinémas, parce que je n'ai pas de ce jugement-là, mais il y a d'ailleurs, ce serait intéressant de sonder l'ensemble des jeunes bolénois et du territoire sur est-ce qu'ils partagent les échanges philosophiques que vous évoquez. Ils sont juste là pour regarder un film et partir, et ils ne font pas plus, ils ne sont pas là dans des débats ou dans des considérations que vous évoquez. Mais là, encore une fois, je crois que nous avons répondu à une problématique du territoire. Oui, avoir un territoire de 24 000 habitants et ne pas avoir de cinéma, c'est un problème. Et dans les considérations que nous avons aujourd'hui faites, si nous n'avions pas porté une réponse au modèle économique de ce cinéma, qui, contrairement à ce que vous dites d'ailleurs, doit garder de la qualité art et essai, parce que s'il n'a pas la qualité art et essai, il ne peut pas toucher les subventions qu'il touche aujourd'hui, et je crois qu'il aurait fermé bien avant. Il doit aussi proposer des films qui permettent de toucher l'ensemble des publics de notre ville, qui vont soit à Montélimar, soit ailleurs, pour faire en sorte de voir un film digne de ce nom qui vient de sortir. Donc je ne crois pas qu'il faille opposer les cultureux bien-pensants à ceux qui ne pensent pas, comme vous avez raccourci avec beaucoup d'habileté votre propos, mais je crois qu'il faut, faire en sorte de pouvoir porter des politiques publiques qui puissent répondre à l'ensemble des besoins du territoire. Je crois que quand on a, sur les programmes que d'ailleurs que vous faisiez en 2008 et en 2014, avec votre volonté de revitaliser le cœur de ville, dont on sait finalement ce qu'il a été sur la ville de Bollène, je crois que nous essayons de mener à bien un projet qui permettra de revitaliser, avec d'autres, de faire en sorte de redynamiser le centre-ville qui, après les élections, les inondations pardon, de 1993, a subi beaucoup de dégâts et ne s'en est jamais relevé. Donc voilà modestement ce que nous souhaitons faire, et nous souhaitons le faire avec l'ensemble des partenaires, parce que quand les partenaires nous accompagnent et nous subventionnent, nous en sommes très heureux. Madame Bompard nous faisait le procès de la déchetterie. Je crois que sur l'ensemble des projets, madame, vous n'avez jamais eu 1 million d'euros de subvention. C'est ce que nous avons obtenu du Conseil régional sur un programme qui aujourd'hui permet finalement de financer et de répondre aux besoins des gens. Donc nous ne le faisons pas pour jeter l'argent par les fenêtres, si c'est ce que vous êtes en train de dire. Nous le faisons avec raison, parce qu'il n'y a pas de raison que nous laissions et nous abandonnions. En ce qui concerne la maison du terroir, même si je sais que c'était, il était très bien placé pour vos campagnes électorales, je veux simplement vous dire que ce bâtiment-là, qui était un désastre pour un Bolénois qui y habite, parce que je sais que vous êtes très loin d'ici, mais pour un Bolénois qui y habite et y passait devant, c'est un désastre, oui. Et quand on est élu, c'est vraiment un cauchemar. Et donc, plutôt que de dire que c'est la faute du préfet, du président, du secrétaire général de l'ONU, nous préférons dire prendre nos responsabilités pour faire en sorte que, modestement, à notre niveau, sans être parlementaire, sans être absolument rien, mais modestement élu, faire en sorte de prendre en main le destin de ce territoire. Parce qu'il mérite mieux, oui, il mérite mieux que vous.
Oui, alors déjà, je vais vous répondre sur vos attaques contre mon mari. Mon mari et moi sommes droits dans nos bottes, mais vraiment droits dans nos bottes, parce que nous sommes persuadés que c'est une attaque politique. Par ailleurs, monsieur, vos propos me rappellent votre condamnation sans nom. Comment vous avez abrité des gens qui ont condamné à mort des policiers en incitant sur votre... Vous avez laissé des incitations à la haine contre deux policiers municipaux de Bolène, rendant irresponsables. Vous vous êtes bien dégagé, vous avez laissé condamner ceux qui avaient mis les propos, et vous qui avez hébergé ces propos-là pendant 15 ans, vous vous êtes bien carapaté et ne pas prendre vos responsabilités. Et vous recommencez aujourd'hui avec Jacques Bompard. Et je vous retrouverai sur le même propos une fois que l'affaire sera terminée, parce que je vous rappelle que pour l'instant, Jacques Bompard n'est pas condamné, n'est-ce pas ? Et méfiez-vous qu'un jour, cela ne vous arrive pas. Vous êtes un habitué, mais si vous êtes un... Attention, monsieur Zilliot, attention. Vous êtes un habitué des insultes comme ça. Mais faites gaffe à vous. Faites attention que les choses ne se retournent pas contre vous un jour. Et je répète, Jacques Bompard et moi sommes droits dans nos bottes. Ensuite, sur les propos de monsieur Raoux, eh bien oui, on n'oppose pas les cultureux à des gens qui veulent voir et se divertir. On oppose l'usager au contribuable, monsieur. Parce qu'effectivement, le contribuable qui ne va pas au cinéma peut avoir à redire sur le coût d'une place d'un tel montant. Voilà la réalité. Je ne sais pas, je dois me taire ?
Continuez.
Bon. Alors, c'est ça, le bon sens, c'est ça, la gestion. C'est pas faire plaisir à une petite partie et faire peser le tout sur toute la population. C'est équilibrer les choses. Par ailleurs, les commissions, monsieur, ne sont pas obligatoires. Je viens quand je veux, quand je peux. Si ça vous plaît, ça vous plaît, ça vous plaît pas, ça ne vous plaît pas. Ça fait pas de moi un mauvais élu, je ne crois pas. Au contraire. Et c'est pas parce qu'on est présent qu'on fait semblant de se photographier et de se mettre sur les réseaux sociaux en se faisant des selfies qu'on est un bon gestionnaire. Vous savez, vous avez parlé de mes amis, etc. Mais moi aussi, j'ai des retours. Le ridicule dans lequel vous vous êtes plongé au département lors d'une réunion sur la politique de la ville, où tout de suite après, effectivement, on m'a affirmé que vous étiez arrivé à cette réunion alors que vous n'y étiez pas convié, en vous pliant d'un certain nombre de choses qui ont fait rire les gens du conseil départemental. Alors soyez modestes. Ensuite, nous venons de parler du cinéma. Mais je peux parler aussi, je n'ai pas voulu, sur la Zande. Mais la Zande, 1,4 million. Nous avons souvent posé la question du nombre d'emplois créés. Du nombre d'emplois. On ne sait toujours. Enfin, si François Morand était allé, avait vu les entreprises, et on ne dépassait pas quelques dizaines. Or, j'ai fait le calcul. Avec le coût de cette zone, s'il y a 100 emplois, ça revient à 14 000 euros l'emploi. Voyez-vous ? Et s'il y a 20 personnes, c'est 70 000 euros le coût pour créer un emploi. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas créer d'emplois, mais je dis qu'un jour ou l'autre, vous serez comptable de cette dispersion de l'argent public. Alors vous êtes content aujourd'hui, comme M. Lambertin, qui est content de sa salle à 2 millions d'eux. 2 millions d'eux où on ne peut même pas se réunir. Heureusement qu'il y a la Cigalière, M. Lambertin. Parce qu'on ne peut pas rester à l'interco au nombre que nous sommes. Et puis, quand on était dans le fonctionnement de cette salle, il fallait que l'assistant qui est là-bas se lève pour mettre le chauffage, enlever le chauffage, parce que quand on brûlait, on avait froid, etc., etc. Alors écoutez, vous aussi, soyez un peu modeste. Je pense que vous êtes bien rentré dans le rang. C'est votre droit, ça vous arrange, mais arrêtez de parler de travers. Alors je pense que la Cigalière, effectivement, heureusement qu'elle est là, parce qu'elle peut accueillir tout le monde. Et je rappelle que ce bloc de béton a coûté 2 millions d'euros, alors que vous nous en annonciez à l'époque 800 000. Mais sûrement que ça fait plaisir à tout le monde de gaspiller l'argent public. Moi, je ne crois pas. Pour Ivkovitch, monsieur, c'est du développement économique. Je n'ai pas de terrain de développement économique. Les seuls que j'avais, on vous les a vendus et vous ne les avez pas payés. Ça relevait du développement économique dont vous êtes le responsable. Ce n'est pas une ville qui n'a pas de terrain. Et si j'avais eu des terrains pour le développement économique, j'aurais été obligée de vous les donner. Alors vous dites des âneries. Okay. Sur les compétences, monsieur. Vous avez fait des déclarations sur l'heure d'accueil des gens du voyage. Et vous en aviez eu plein la presse, là aussi. Nous allons récupérer, nous allons faire. Oh, Marie-Claude Bompard a mal entretenu l'aire d'accueil des gens du voyage. Dès que vous avez eu la compétence, qu'est-ce que vous avez fait ? Vous l'avez passée, vous avez voulu la passer à une société privée. Et effectivement, on a fait jouer notre minorité de blocage puisque vous vouliez des compétences. Il y en a une deuxième que j'ai oubliée malheureusement, mais ça me reviendra. Alors, faire le fanfaron, aller annoncer des trucs alors que vous-même, quand la compétence ne vous plaisait pas, vous la rejetiez, il faut être sacrément oublieux. Vous dites que l'État va vous aider, monsieur, j'en suis fort aise, quand le même État a des centaines de millions d'euros de déficit, il n'arrive plus à s'en sortir. Nous sommes les mauvais élèves de l'Europe. Et vous voulez, par votre gestion dispendieuse, parce que je le répète, monsieur Mossi, les rentrées fiscales sont importantes, mais elles auront été gaspillées. Sinon, on n'aurait pas besoin de faire appel à l'État. Sur le deuxième exemple, sur mon mari, sur le taux de la taxe, de la CFE. Mais comme vous parlez beaucoup sans vraiment vous intéresser aux choses, simplement pour dire du mal, pour être bête en fait. Tant qu'Orange était seul, son taux de, puisque c'était à l'époque la taxe professionnelle, était le plus bas, y compris de l'Interco, dans laquelle on l'a obligé à rentrer, monsieur. On l'a obligé. Et en l'obligeant à rentrer, c'est M. Millon. Je cite les noms parce que tout ça est écrit. M. Millon, président de cette intercommunalité, qui a contraint la ville d'Orange à augmenter ses taux de 50%. Alors, au lieu d'aller regarder des choses qui sont... et d'inventer, parce que vous êtes un menteur, et on le sait, tout le monde le sait. Vous parlez de la population, elle nous parle à nous aussi. Les gens du foyer d'Odé, les gens d'un petit peu partout nous parlent, les commerçants nous parlent aussi. Arrêtez de fanfaronner, et si vous saviez qu'ils ne sont pas contents, vous feriez attention, parce qu'ils ne sont pas contents. Autre chose, autre attaque. Alors toujours le énième. Oui, ben je suis désolée, madame et messieurs, dames. On ne peut pas dire que Marie-Claude, c'est le diable, quand soi-même, perfidement, on y va aux attaques, quand on sait que hein, c'est facile comme ça. On dit, oh, elle est méchante, regardez, elle nous empêche de travailler depuis des années. Mais qu'est-ce que vous avez fait, vous? Quand vous étiez à court d'arguments, qu'est-ce que vous disiez? Vous, l'extrême droite, c'est vous, peut-être Madame Ricard s'en souvient de ça. Est-ce que j'ai provoqué ce genre de propos? C'était toujours sur de la gestion que je me suis toujours... Reprenez les comptes rendus, madame, mais reprenez-les. Nous les reprenons actuellement, tous, tous. Et nous voyons ce que nous avons dit et comment nous avons été traités. Alors, oui, je prends du temps, vous m'excuserez, mais on ne peut pas être comme ça, voué aux gémonies, sans répondre.
On pourrait peut-être revenir à la communauté de communes et au sujet qui nous concerne ce soir.
Et madame, j'ai été interpellée.
Et au vote.
Madame, j'ai été interpellée, y compris sur ma vie de bien, famille.
Finissez, madame.
Donc, s'il vous plaît, quand même, Madame Ricard, votre angélisme, il n'était pas le même à l'époque, hein?
Écoutez, Madame Bompard, je crois que
vous aviez rouspété parce que vous avez...
Madame Bompard, vous finissez votre intervention sur le compte administratif et donc vous terminez... Non, madame, d'abord, madame, je sais que... Non, attendez, je sais que ça vous agace, tout ce qui peut être dit... Mais ce n'est pas une question d'attaque personnelle, madame. Vous nous faites des leçons de droit à longueur de journée. Et donc, on vous dit simplement que vos leçons de droit, vous voulez garder pour vous et votre famille. Exactement. Et je maintiens ce que je viens de dire. En ce qui concerne, madame, sur l'ensemble des orientations que vous faites, vous nous avez parlé de choses qui sont, je crois, complètement... qui illustre d'ailleurs, je pense, votre absence de méconnaissance. J'ai jamais parlé de la CFE à la CC Pro. D'ailleurs, vous regarderez à la CC Pro ce qui a été voté. Et il s'agit, non, c'est pas de la cotisation foncière des entreprises que j'évoque, c'est de la fiscalité de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, et c'est de la fiscalité qui est propre aux foyers et aux fonciers. Et c'est de ça qu'il s'agit, c'est pas de la CFE. D'ailleurs, la CFE, si on voulait l'augmenter, on peut pas le faire. Non. Mais non, donc vous évoquez encore une fois des choses, madame, qui sont complètement dépassées. Enfin, j'ai bien compris que vous étiez dans une politique spectacle, même si c'est l'heure du film, je pense qu'on s'en passera, parce que je crois que profondément, madame, vous êtes de mauvaise foi, vous venez de préciser des choses qui sont, à mon sens, complètement déplacées sur la question du développement économique et du développement de ces zones d'activité. Nous avons fait en sorte de développer... la question, si vous aviez assisté aux commissions, j'insiste, vous auriez eu le résultat et le récapitulatif de l'ensemble de l'argent qui a été investi par les entreprises pour créer leur bâtiment sur la zone, de l'ensemble de cet emploi qui a été créé, pour faire en sorte finalement de faire ça. Enfin, monsieur Raoux, si on devait faire le ratio au nombre de sièges qu'il y a dans cette salle et au prix que cela a coûté, je ne suis pas certain qu'on soit si proche de ce que nous avons pu proposer sur l'ensemble du territoire. Je vais laisser la parole à Madame Desfonds-Fargeon sur la question de la maison du terroir ou du cinéma.
Je voulais parler du cinéma, effectivement, parce qu'on a des bilans de fréquentation du cinéma. Et les bilans de fréquentation du cinéma, alors pas pour l'année 2020, effectivement, avec le Covid, mais on est sur une fréquentation qui varie de 17 000 à 20 000 personnes, donc 17 000 à 20 000 usagers, sur un an. Et en fait, c'est très largement au-dessus du bilan de fréquentation de la Cigalière, qui nous coûte trois fois plus que le cinéma, voire quatre fois plus. Donc effectivement, mettre de côté les 20 000 personnes qui fréquentent le cinéma sur notre territoire, je trouve que c'est regrettable et que là encore, c'est une large méconnaissance des besoins des usagers et des habitants sur notre territoire.
Merci. Je soumets aux voix ce budget. Qui s'abstient? Qui est contre? La Ligue du Sud. Dossier adopté à la majorité. Je vous en remercie. La question suivante, il s'agit du budget annexe lié au service public de l'assainissement non collectif. Monsieur Perron.
Donc le budget SPANC s'équilibre à 41 678 euros 79 en dépenses et en recettes. Il n'y a pas de section d'investissement. Le budget prévoit des contrôles à réaliser sur le territoire sous réserve de la situation sanitaire, bien entendu. Et vu l'avis favorable de la commission des finances qui s'est réunie donc le 31 mars dernier, il est donc proposé au conseil communautaire de délibérer pour approuver le budget primitif présenté.
Merci. Y a-t-il des questions? Qui qui s'abstient ? Qui est contre ? La Ligue du Sud, dossier adopté à la majorité. Question numéro 29, il s'agit du budget annexe sur la zone d'activité Notre-Dame. Monsieur Perron.
Alors l'année 2021 devrait clore définitivement le budget de cette zone, ce qui a été évoqué tout à l'heure. Le budget ZEND s'équilibre à 1 531 849,85 € en fonctionnement et à 1 584 090,05 € en investissement. Vu l'avis favorable également de la commission des finances qui s'est réunie le 31 mars, il est donc proposé au conseil communautaire de délibérer pour approuver le budget primitif présenté.
Merci. Y a-t-il des questions ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? La Ligue du Sud, dossier adopté à la majorité. Question numéro 30, il s'agit du budget annexe de l'Office de tourisme. Monsieur Perron.
Donc en 2021, donc l'action de l'Office de tourisme intercommunal va se recentrer sur la promotion touristique ainsi que des actions visant à structurer et faire rayonner notre territoire. En investissement, il est envisagé l'acquisition d'un bureau d'information touristique itinérant. En fonctionnement, ce budget s'équilibre donc à 315 000 € et en investissement à 50 000 €. Vu l'avis favorable de la commission des finances réunie le 31 mars, il est donc proposé au conseil communautaire de délibérer pour approuver le budget primitif présenté.
Merci. Y a-t-il des questions ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? La Ligue du Sud, dossier adopté à la majorité. Question numéro 31, il s'agit du budget annexe sur la zone d'activité économique, la croisière sud. Monsieur Perron.
Alors l'année 2021 retracera à la fois sur le budget de la croisière, donc de la zone de la croisière, la poursuite des travaux d'aménagement pour 2 millions d'euros, la cession des premiers lots aménagés pour 1 200 000 €, l'emprunt de 1 500 000 € pour financer les acquisitions foncières engagées préalablement, ainsi que les travaux réalisés et à venir. Le coût global de l'opération d'aménagement est toujours estimé à 3 millions d'euros. Sur les 16 lots commercialisables, 12 sont déjà réservés et en cours de signature de compromis. La réception des travaux est prévue donc avant l'été 2021. En fonctionnement, ce budget s'équilibre à 5 481 524,09 €. Et en investissement, donc, à 6 503 028,18 €. La commission des finances donc, a émis un avis favorable qui s'est réuni le 31 mars. Il a donc proposé au conseil communautaire de délibérer pour approuver le budget primitif ainsi présenté.
Merci. Y a-t-il des questions ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? La Ligue du Sud, dossier adopté à la majorité. Question numéro 32, il s'agit du budget annexe sur le pôle médical. Monsieur Perron.
Alors, au pôle médical, le bâtiment initial et le plateau connexe, premier étage du bâtiment B, étant désormais complet, la communauté de communes envisage désormais d'aménager et louer le rez-de-chaussée du bâtiment B. En fonctionnement, donc, ce budget s'équilibre donc à 350 510 € et en investissement à 18 113,40 €. Vu l'avis favorable de la commission des finances, réuni le 31 mars, il est donc proposé au conseil communautaire de délibérer pour approuver le budget primitif ainsi présenté.
Merci. Y a-t-il des questions ? Qui s'abstient ? Qui est abstention de la Ligue du Sud ? Qui est contre ? Dossier adopté à l'unanimité. Question numéro 33. Il s'agit du budget primitif du budget annexe ZAC Pan-Europarc. Monsieur Perron.
Alors le budget 2021 de la ZAN Pan-Europarc retrace à la fois des acquisitions foncières auprès des particuliers et de la commune de Bolène, ainsi que les cessations de baux ruraux, les fermiers qu'on appelle. Voilà. De plus, donc, des travaux d'aménagement nécessaires à sa commercialisation sont comptabilisés, ainsi que la vente des parcelles nues ou aménagées. Ce budget pourrait nécessiter des financements externes durant l'exercice. En fonctionnement, ce budget donc, s'équilibre à 7 245 214,72 € et en investissement donc à 3 990 409,44 €. La commission des finances réunie le 31 mars a émis un avis favorable. Il est donc proposé au conseil communautaire de délibérer pour approuver le budget primitif ainsi présenté.
Merci. Y a-t-il des questions ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? La Ligue du Sud, dossier adopté à la majorité. Question numéro 34. Il s'agit du budget annexe sur la classe, la zone d'activité. Monsieur Perron.
Alors ce budget retranscrit donc à la fois les travaux d'aménagement nécessaires à sa commercialisation, ainsi que la vente des premières parcelles aménagées. Le coût global de l'opération est estimé environ à 600 000 euros. Sur les 4 lots commercialisables, 2 sont déjà réservés et en cours de signature de compromis. La réception des travaux est donc prévue pour l'été 2021. En fonctionnement, ce budget s'équilibre à 887 129,43 euros et en investissement, donc à 1 014 238,86 euros. La commission des finances, donc réunie le 31 mars, a émis un avis favorable. Il est donc proposé au Conseil communautaire de délibérer pour approuver le budget primitif ainsi présenté.
Merci. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? La Ligue du Sud, dossier adopté à la majorité. La question numéro 35, il s'agit de la dotation de solidarité communautaire. Monsieur Perron.
Alors, la disposition réglementaire régissant donc les critères de répartition de la DSC ayant évolué, donc il est désormais obligatoire que la DSC repose sur l'écart du revenu par habitant de la commune au revenu moyen par habitant de l'établissement public de coopération intercommunale, sur insuffisance de potentiel financier par habitant de la commune au regard du potentiel financier communal moyen par habitant sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale. Donc, vu l'avis favorable de la commission des finances qui se réunit le 31 mars, il est proposé de répartir l'enveloppe de la DSC à 85% sur le premier critère et 15% sur le second, comme récapitulé dans l'ordre du jour qui vous a été envoyé.
Merci. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Question numéro 36. Il s'agit de la dotation de solidarité communautaire. L'enveloppe, Monsieur Perron.
La CCRLP a pu dégager en solidarité pour ses communes membres une enveloppe de 2 200 000 euros qui, en application des critères précédents, se répartissent comme suit. Alors, pour la ville de Bolène, 1 204 155 euros. Pour la ville de la Motte-du-Rhône, 35 676 euros. Pour la Palue, 394 311 euros. Pour Mondragon, 348 664 euros. Pour la ville de Mornas, 217 194 euros. Donc, montant total, comme évoqué en dessus, donc, de 2 200 000 euros. La commission des finances a également émis un avis favorable le 31 mars dernier. Il est proposé donc de valider l'enveloppe de 2 200 000 euros répartie ci-avant.
Merci. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. La question numéro 37, il s'agit de la subvention d'équilibre sur le budget annexe de l'Office de tourisme intercommunal. Monsieur Perron.
Alors, considérant que le budget annexe de l'Office de tourisme intercommunal dispose de l'autonomie budgétaire et qu'il doit faire face à des charges fixes, notamment de personnel, il est nécessaire de procéder au versement d'une partie de la subvention d'équilibre prévue pour 2021. Donc, vu l'avis favorable de la Commission des finances réunie le 31 mars, il est proposé au Conseil communautaire de valider le versement de ces 100 000 euros pour équilibrer donc le budget de l'Office de tourisme.
Merci. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud, qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Chers collègues, vous avez tous sur votre table une motion qui a été déposée en début de séance, qui n'était pas prévue puisque les événements sont intervenus entre les épisodes de gel des 6 au 9 avril. Si personne s'y oppose à ce que nous puissions voter cette motion, je vous propose de vous la lire. Verger de la France, le Vaucluse peut s'enorgueillir d'une tradition agricole et viticole qui a longtemps fait sa renommée et continue d'être au cœur de son développement économique. Le territoire de Rhône-Lès-Provence est une de ces pépites où, depuis des siècles, pour ne pas dire des millénaires, l'homme et la nature se sont apprivoisés autour de la vigne, des fruits et des produits maraîchers. Partout, de Bolène à la Motte-du-Rhône, de la Palue à Mornas, en passant par Mondragon, nos paysages témoignent de cet héritage de l'histoire que les femmes et les hommes d'aujourd'hui continuent de faire fructifier courageusement chaque jour à la tâche. Au-delà même du poids économique du secteur, bien connu, parler d'agriculture en Rhône-Lès-Provence, c'est parler de près de 400 personnes qui y consacrent leur vie, sans compter les emplois induits, l'industrie agroalimentaire qui dépend de leur travail, ou encore l'attractivité touristique découlant d'un terroir qui fait notre fierté auprès des visiteurs du monde entier. C'est aussi évoquer une activité humaine qui a façonné notre histoire, notre culture, ses traditions chères à nos cœurs. Les épisodes de gel que nous avons connus dans les nuits du 6 au 9 avril ne sont pas seulement un soubresaut de la nature, un de ceux que l'homme a appris à domestiquer au fil des années. Par son intensité et à cette période de l'année, ils sont une véritable catastrophe. qui met en péril la production prévue pour 2021 pour partie ou entièrement selon les cultures. En dépit des efforts produits pour tenter de limiter les dégâts, les conséquences de ce dérèglement climatique sont lourdes et laissent craindre le pire pour certaines exploitations à court et à moyen terme. À toutes et tous touchés par cette catastrophe, les élus de la communauté de communes veulent d'abord adresser leur soutien le plus total. À notre niveau et avec les moyens qui sont les nôtres, nous sommes mobilisés pour vous accompagner aujourd'hui et demain. Au niveau national, nous demandons également un soutien sans faille et rapide des pouvoirs publics. Le gel n'a pas choisi ses victimes. Le régime de calamité agricole doit donc être étendu à l'ensemble du territoire et à toutes les productions agricoles et viticoles de notre territoire. De plus, et c'est essentiel, au vu de l'urgence et de la gravité de la situation, le versement des indemnités prévues doit être accéléré pour venir en aide aux exploitants au moment où ils en ont besoin. Il serait impensable que la lourdeur des dossiers ou des obstacles bureaucratiques vienne ralentir l'indispensable solidarité nationale qui est due à ceux qui garantissent la qualité de notre alimentation. Les agriculteurs et les viticulteurs de Rhône-Est-Provence sont au cœur de notre vie, au cœur de notre histoire. Les aider aujourd'hui, c'est préserver demain, ce qui fait notre richesse, notre patrimoine, surtout notre identité. Voilà la motion que je vous propose. Sur cette motion, qui s'abstient, qui est contre ? Motion adoptée à l'unanimité, je vous remercie. La séance est levée. Et je vous demande juste de venir signer sur la scène l'ensemble des budgets, et il y en a quelques-uns.